avec l'arrivée des rebelles que j'ai fui parce qu'ils ont sémé la terreur au sein de la population.
Ils ont commencé à tirer en l'air, ils ont dit « Allahu Akbar ». Après ça, ils ont dit que « Où est l'argent ?» Moi, j'ai dit que je n'ai pas d'argent.
On ne veut pas que la guerre recommence. Nous voulons que ça soit la fin et non le début.
Bonsoir à tous. Ravie de vous retrouver pour cette nouvelle édition hebdomadaire de Sahel+. Aujourd'hui, au sommaire, suspension du procès Sanogo au Mali. Dakar a accueilli le Forum international sur la paix et la sécurité en Afrique. Le départ de Yahya Jammeh va-t-il changer la donne dans le conflit casamançais? Le grand sculpteur sénégalais Ousmane Sow nous a quittés. Enfin, gros plan sur la 16e édition du Festival international du film de Marrakech. Voici tous les sujets que nous allons développer dans Sahel+. Restez avec nous. Au Mali, suspension des travaux au troisième jour du procès de Aya Amadou Sanogo à Sikasso. Les avocats de la défense ayant exigé la présence des témoins à charge. Quoi qu'il en soit, avec ces suspensions répétées, le public est divisé. D'un côté, certains pensent qu'il faut donner du temps aux jurés pour bien démarrer, tandis que d'autres participants relèvent une mauvaise organisation du procès. Le point avec notre correspondant Kassim Traoré.
Dans le procès actuel, la comparution des témoins à charge est obligatoire, c'est-à-dire les témoins cités par le ministère public. C'est à cause de cette obligation que l'audience du lundi 5 décembre 2016 a été suspendue. Et c'est le procureur général près la cour d'appel de Bamako qui doit faire venir les témoins. Mamadou Lamine Koulibaly, procureur général.
Nous avons servi les citations, ils sont cités régulièrement. Ils auraient dû être là. Vous avez remarqué, à l'ouverture, certains étaient là. Ils étaient nombreux ici, les témoins. Après, ils sont partis. Mais ceux-là qui sont restés à la date d'aujourd'hui, il y a 5 témoins cités par le ministère public qui sont là et qui sont donc prêts à témoigner. Maintenant, les autres, on va les faire venir.
Pour la défense, il est aussi simple que d'exiger la comparution des témoins cités par le ministère public. Pour Maître Harouna Touré, avocat à la défense, il n'y a pas eu encore beaucoup de suspensions.
Nous sommes qu'à la troisième et il pourrait y en avoir d'autres et les raisons sont objectives et juridiques. À ce stade, il a été simplement constaté que les témoins n'ont pas comparu alors qu'ils ont été régulièrement cités par le parquet. Et c'est normal que le président de la Cour, en accord avec la Cour, prenne une décision de faire comparaître ces témoins s'il le faut par la force. Ils doivent comparaître, forcément. C'est le manu militari cette fois. Il dira simplement que des citations ont été faites, les gens n'ont pas voulu déférer aux citations.
Si, selon les juristes, les suspensions d'audience sont juridiques et réglementaires, l'assistance ne voit pas de cette manière.
Tout ce que moi j'ai compris dans ce procès, vraiment, ce n'est plus la justice, c'est la politique. Parce que ce que moi j'ai constaté encore, vraiment, c'est très très mal organisé.
Chaque jour on vient, après la comparaison des accusés, la cour se retire, 30 000, 40 000, l'audience est suspendue, jusqu'à 72 heures, 24 heures. On ne comprend rien. Souvent on dit que défaut de témoignages, défaut d'avocat, défaut de téléphone, c'est une histoire là.
Ce jugement ne doit pas être bâclé. Il faut du temps et de la patience de tout un chacun. C'est ce que pense Abdoulaye Touré.
C'est au-delà de toutes les patients. Il faut que les Maliens sachent qu'ils doivent être patients. Et l'organisation d'un procès, ce n'est pas la mer à boire. Hein. Il faut aller doucement. Il y a des exceptions soulevées par les avocats de la défense, les avocats de la partie civile, de la cour. Tout ça, ça demande un certain nombre de problèmes qu'il faut revoir avant que le procès lui-même ne commence. Donc on comprend un peu l'impatience de tout un chacun. Je crois que la cour a commencé, c'est déjà un pas.
Force est de constater que l'arrêt de la cour est ambigu. À l'en croire, il fait obligation à tous les témoins de venir à l'audience, si besoin par la force publique. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Restez branchés 24h/24 sur VOA Afrique à Bamako, au Mali, sur 102.0 FM. Le Forum international sur la paix et la sécurité a eu lieu en début de semaine à Dakar. Le président Macky Sall a renouvelé son appel en faveur d'une lutte contre la radicalisation des jeunes. Une étude récente de l'Institut Tombouctou révèle que certains quartiers de la banlieue de Dakar pourraient être vulnérables au radicalisme, même si le Sénégal est connu pour sa tolérance religieuse. Pour un éclairage, Abdourahmane Dia a joint à Dakar le sociologue Djibi Diakaté.
Le Sénégal a toujours joué un rôle important pour maintenir les grands équilibres à partir du principe culturel qu'il est possible de faire en sorte que l'homme respecte son prochain, que les sociétés se respectent mutuellement, qu'il est possible que l'on aille vers cette conception-là qui voudrait que ce qui fait la beauté d'un tapis, que ça soit la variété de ses couleurs, que l'on respecte la différence. Ça, c'est un principe culturel fort auquel les Sénégalais sont attachés.
L'islam sénégalais a toujours été inspiré par le soufisme, mais ces dernières années, d'autres courants ont commencé à prendre pignon sur rue. Est-ce que cela est une source d'inquiétude pour vous?
En réalité, vous avez raison de le dire, l'islam au Sénégal a toujours été un islam soufi. La pratique islamique se faisait essentiellement au niveau des confréries, attachées à la philosophie de l'imam Malik, qui mettait essentiellement l'accent sur l'idée que l'individu doit développer l'ascétisme religieux, se détacher le plus possible des plaisirs mondains, ne pas s'intéresser aux problèmes qui traversent l'univers de façon matérielle, mais plutôt mettre l'accent sur l'attention de l'âme, sur l'attention de l'esprit. Aujourd'hui, on a noté de plus en plus des jeunes qui ont été formés dans les universités, dans certaines universités arabes, qui reviennent avec une nouvelle version, avec une nouvelle lecture de l'islam. Alors ces jeunes-là constituent un bastion de plus en plus important qui ont tendance à suivre une autre voie, une autre idéologie. Suivi maintenant en cela par d'autres jeunes frappés par le chômage et la pauvreté. Et c'est à ce niveau-là qu'ils ont tendance à recruter. Et c'est là où il y a aujourd'hui la nécessité de mener, si vous voulez, un travail de sensibilisation et d'éducation pour éviter le développement d'un foyer qui s'oriente vers un islam radical.
Si je vous comprends bien, le modèle sénégalais de tolérance religieuse est peut-être en danger. Quelle est la solution? Elle ne peut pas être que militaire.
Et elle n'est pas une solution militaire, elle est une solution qui passe par l'éducation. Le président de la République parle de territorialisation des politiques publiques, donc il faut aller vers les territoires, il faut aller vers les localités les plus éloignées, très bonne chose, mais il faut donner un contenu à cela en faisant en sorte que les populations au niveau local puissent participer à la mise en place des politiques publiques les concernant.
Le sociologue Djibi Diakaté. On continue de commenter la décision du président gambien Yahya Jammeh de reconnaître sa défaite à la présidentielle. Le départ de ce président au pouvoir depuis 22 ans va peut-être aussi changer la donne dans le conflit casamançais qui oppose l'État sénégalais aux rebelles indépendantistes de cette région du sud, coincée entre la Gambie et la Guinée-Bissau. Nicolas Pinault a joint Amadou Sylla, président de SOS Casamance.
Ça a surpris quand même tous les observateurs. Personne ne s'y attendait, mais je pense qu'il faut en tout cas saluer la sagesse du président Yahya Jammeh. Il faut reconnaître quand même la grandeur de l'homme. C'est vraiment difficile dans le contexte africain qu'un président, avec tout ce qu'on l'a caricaturé il y a ces années, avec tout ce qu'on a en tout cas dit sur lui, que subitement les gens le voient renoncer au pouvoir parce que tout simplement il a été battu sur des élections que lui-même il a organisées et qu'il reconnaît officiellement sa défaite. Il tend la main effectivement à son successeur. Moi je crois qu'il faut tirer des enseignements très positifs dans ce sens-là, ne serait-ce que pour l'intérêt de la stabilité de la Gambie, pour l'intérêt des Gambiens, regarder plus en avant, préserver la paix sociale.
Est-ce que le départ de Yahya Jammeh va permettre des avancées dans le dossier casamançais au Sénégal?
Oui, absolument, parce que Yahya Jammeh, quoi qu'on dise, c'est un acteur clé en tant que président de la République gambienne, parce que la Gambie, c'est un pays qui partage le Sénégal en deux, qui fait que la Casamance, effectivement, n'est pas tout à fait reliée dans l'espace territorial, dans l'espace national. Donc, de ce point de vue-là, je crois que quelqu'un comme Yahya Jammeh, qui n'a certainement pas facilité le dialogue entre le pouvoir et les gens du MFDC, où il y a un problème de communication réelle qui s'est posé. Et je crois que son départ, ça ouvre une nouvelle page. De ce point de vue-là, je crois qu'il y a un vrai espoir, effectivement, qu'on peut attendre du nouveau régime gambien et aussi du régime sénégalais, parce que le dialogue, ça s'est fait en deux. Et il faut de la hauteur, en tout cas pour les deux parties, pour l'ensemble des acteurs, pour arriver effectivement vers une solution beaucoup plus attendue et beaucoup plus constructive.
La Gambie qui a souvent été accusée de servir de base arrière au MFDC, le mouvement rebelle casamançais.
Le Sadio a toujours retrouvé effectivement refuge en Gambie pour la simple et bonne raison que Salif Sadio est attaché à la Gambie, ben, il ne pose pas une grande difficulté. Mais ça aussi, il faut voir les relations politiques entre le Sénégal et la Gambie. Autant le Sénégal accusera la Gambie d'accueillir effectivement les rebelles, de les abriter sur son territoire, autant les Gambiens aussi diront, voilà, vous abritez des opposants qui veulent déstabiliser notre pays, qui veulent déstabiliser notre démocratie. Donc, en fait, c'est des rapports un peu en dents de scie. Quand on connaît que la Gambie et le Sénégal, c'est un même peuple, c'est les mêmes cultures qui est importante, qui doit être constante dans les relations entre les deux pays, ça doit être vraiment le respect, la construction d'un dialogue dans l'intérêt des deux peuples, à savoir le peuple gambien et le peuple sénégalais, qui ne font que la Sénégambie, en tout cas, un même peuple, une culture, une même civilisation.
Amadou Sylla, président de SOS Casamance. Le sculpteur sénégalais de renom, Ousmane Sow, est mort à Dakar à l'âge de 81 ans. Il était connu pour ses sculptures géantes représentant des ethnies africaines. Il a été admis à la prestigieuse Académie des Beaux-Arts de Paris en 2012. Son exposition sur les Indiens d'Amérique avait attiré plus de 3 millions de visiteurs en 1999 à Paris. Écoutons Alassane Cissé, journaliste qui a réalisé plusieurs interviews avec Ousmane Sow.
Il a marqué son époque, il a marqué de son empreinte des réalisations de haute facture. C'est un sculpteur d'un rang mondial et il a façonné et immortalisé des ethnies africaines avec ses sculptures monumentales. Des ethnies africaines telles que les Maasai, les Nouba, les Peuls. Ces derniers temps, ses réalisations ont porté sur des figures historiques qui ont marqué sa vie, telles que son père, telles que Mahatma Gandhi, telles que Nelson Mandela, tel que l'écrivain Victor Hugo. Et en 2012 également, l'Académie des Beaux-Arts de Paris l'a accueilli comme membre associé.
Alassane, vous l'avez dit, il était connu pour ses sculptures gigantesques consacrées surtout aux ethnies africaines. Tu penses qu'il a eu la reconnaissance qu'il méritait en Afrique?
Mais il a eu la reconnaissance, quoi, qu'on dise. Et au Sénégal, les autorités lui ont rendu hommage, lui ont donné beaucoup de distinctions. Il était impliqué, surtout avec l'avènement du président Macky Sall, dans les politiques culturelles publiques. Je pense qu'on lui a rendu hommage également au cours de grands rendez-vous culturels africains. Ousmane Sow aussi a façonné des sculpteurs de la trempe de Ndarilo également.
Justement, quel est un peu l'avenir de la sculpture au Sénégal et un peu en Afrique après sa mort?
L'avenir de la sculpture au Sénégal, on vient d'apprendre que le jeune Balando sculpteur a été sélectionné par le comité international de sélection pour les 8e Jeux de la francophonie qui auront lieu en Côte d'Ivoire. Et au village des arts, il y a des sculpteurs de la trempe de Djibril André Diop. Et actuellement, Bassirou Sarr, sculpteur, va ouvrir un village des arts à Ngaparou. Donc la sculpture, c'est une discipline assez difficile par rapport à la peinture, par rapport aux autres arts plastiques, mais la sculpture a de beaux jours au Sénégal et aussi en Afrique, avec les sculpteurs sud-africains, ghanaïens, tels que Kofi, et qui sont en train de faire des merveilles et qui exposent aussi bien à la Biennale de l'art africain contemporain de Dakar, de la Documenta de Kassel en Allemagne et d'autres grands rendez-vous des arts plastiques à travers le monde.
Le journaliste Alassane Cissé était joint à Dakar par Abdourahmane Dia. La 16e édition du Festival international du film de Marrakech rend hommage au cinéma russe jusqu'au 10 décembre. 28 pays sont représentés dans la sélection officielle du festival. 14 longs-métrages sont en lice pour l'Étoile d'Or, mais aucun film marocain ni africain ne figure sur la liste, hormis une coproduction sud-africaine-américaine. Salwa Jaafari nous en dit plus.
Le festival du film de Marrakech s'est ouvert vendredi dernier sous une pluie battante. La météo n'était pas la seule à afficher une grise mine. Les professionnels du film marocain ne se sont pas gênés pour faire part de leur frustration, à commencer par Mohamed Abdrahman Tazi, président de la Coalition nationale pour le développement de l'industrie du cinéma et de la radiodiffusion.
Nous dénonçons cette attitude, nous disons que ce n'est pas acceptable parce qu'il y a beaucoup d'argent dépensé pour promouvoir le cinéma marocain, même si ces montants doivent être augmentés. Il y a de bons films, nous ne pouvons pas les juger et dire qu'ils ne peuvent pas participer à ce festival en raison de leur faible niveau.
Pourquoi ? Eh bien, le comité organisateur du festival estime tout simplement que les Marocains ne sont pas prêts, comme nous l'explique Mohamed Salim Al-Haq Fassil Ferri, vice-président de la fondation du festival.
Nos grands réalisateurs, ceux qui ont l'habitude de venir ici, ne sont pas prêts. Leurs films ne sont pas prêts. Nourdine Khamale n'est pas prêt. Daoud n'est pas prêt. Fawzi Ben Saïdi n'est pas prêt. Narjis n'est pas prête. Leila Kilani n'est pas prêt. Et j'en passe. Donc ce que nous avons vu n'a pas convaincu pour être au niveau de la compétition et des autres films qui sont en compétition.
Malgré ce que beaucoup qualifient de boycott, les acteurs marocains ont été nombreux à assister à la cérémonie d'ouverture du festival qui met à l'honneur le cinéma russe cette année. Le film Zoologie d'Ivan Verdovsky est en compétition pour l'Étoile d'Or, l'histoire de Natacha, une employée du zoo d'une petite ville russe. Autre film, King of the Belgians, le roi des Belges de Peter Brossens et Jessica Woodworth, ou encore le seul film africain de la sélection du Sud-Africain Oliver Schmidt, Shepherds and Butchers, des bergers et des bouchers. Le jury est éclectique, il est présidé par le cinéaste hongrois Bellatar, qui devra faire son choix parmi 14 longs métrages. Le festival a rendu un vibrant hommage au réalisateur, scénariste, producteur et comédien japonais Shinya Tsukamoto, maître incontesté du cinéma underground, avec des films relatant la brutalité de la vie moderne.
Sahel Plus, c'est fini pour aujourd'hui. À la production Lionel Gaïma, au micro Claire Morin-Gibourg. Rendez-vous mercredi prochain, 18h10, temps universel sur VOA Afrique. Nous nous quittons en musique avec le chanteur angolais Toti Samed, qui mélange avec brio les sons classiques de la samba angolaise avec une inspiration de blues. Bonne soirée et bonne nuit à tous.
Mona mwene kalunga nguma mona mwene iswe yaweza mona mwene kalunga nguma. Mona mwene, kiswe ya wei. na mona mwene kalunga nguma mona mona mwene iso ya weza mona mona mwene.